Préface. Nos monarques ont joui jusqu'à la fin du dernier siècle d'une révérence à peu près universelle. La foule anonyme regardait l'imposante galerie de leur buste comme un second arbre de Jessé ou comme une collection d'effigies paternelles et familières où se retrouvaient tous les Français. Même les républicains pur sucre reconnaissaient au roi de France une volonté d'airain, servie par une continuité sans exemple, ainsi que le mérite tout bonnement d'avoir fait un grand œuvre. Si l'on excepte quelques anarchistes, la plupart des penseurs, des historiens, des juristes, des chroniqueurs ne pouvaient avant-hier encore se départir envers cette soixantaine de souverains, à commencer par les 33 qui se sont succédés d'Hugues Capet à Louis Capet, d'une gratitude objective. Ces hommes couronnés, sacrés, étaient à leurs yeux les rois qui ont fait la France. Sans doute est-ce un peu moins vrai de nos jours, la monarchie héréditaire de droit divin, fondée sur la primogéniture mâle, suscitant désormais plus d'ironie que d'éblouissement. Les mentalités depuis une génération ont tellement évolué. En janvier 1987, un décret, signé par le président François Mitterrand, lançait avec ferveur les célébrations du millénaire capétien, dont un colloque au Sénat, des festivités à Amiens, une messe en la basilique Saint-Denis et une exposition itinérante devaient être les événements phares. Une pièce de 10 francs qui mettait en majesté le fondateur de la dynastie sur un semis de croisette fut même frappée pour la circonstance. Imagine-t-on pareil hommage de nos jours ? Nul doute qu'il soulèverait un cœur de protestations indignées. Tant il est vrai que nos rois de France, cette lignée de patriarches chrétiens de sang bleu, incarnent à la quintessence tout ce que notre époque, fâchée avec les vieux principes de l'Occident, refuse et rejette. Ces monarques furent des lieutenants de Dieu, de vénérés pères du peuple, des maîtres politiques inflexibles, dont la tutelle, essentiellement virile, s'exprimait sous la forme d'un pouvoir vertical, assigné d'en haut et tenu lui-même du Tout-Puissant. L'édifice qu'ils ont bâti de haute lutte, souvent de force, parfois en recourant à la violence, contre la multitude, cette nation conquérante et dominante, a perdu, lui aussi, les faveurs du public. Et c'est tout juste maintenant si les noms de Saint-Louis, de Philippe le Bel, de Charles VII, de François Ier ou de Louis XIV ne sont pas prononcés à mi-voix, le regard fuyant et la bouche en coin. L'héritage politique et culturel des Capétiens n'en demeure pas moins incontournable à qui prétend connaître et comprendre l'histoire de France. Concrètement, il s'est d'abord agi pour les souverains successifs de constituer un territoire qui, hanté sur un domaine de taille modeste à l'origine, a fini par rejoindre les frontières naturelles du royaume, le précaré du Grand Vauban, cours d'eau et crêtes montagneuses en deçà desquelles vivaient des populations soi-disant vouées du fait de leur substrat culturel à partager un mode de vie. Or, contrairement aux pays d'empire ou aux mosaïques princières constituées tard en état-nation, ce royaume unitaire et centralisé a placé dans les mains de ses rois un pouvoir majeur à cet égard. Ce fut aussi le cas outre-Manche. Naturellement, les différents monarques ont appuyé leur action sur d'innombrables relais. Ils ont mis à contribution les meilleures intelligences de leur temps et recouru, parfois jusqu'au sacrifice, au talent de militaires de génie, de hauts administrateurs, d'efficaces financiers, de savants diplomates, de juristes éminents et d'artistes brillants. L'histoire de la monarchie est aussi, et avant tout, diront certains, celle de ses grands serviteurs. Il n'empêche que c'est dans la figure centrale, dans la dimension capitale du roi, que réside le principe de la politique française, en tout cas jusqu'en 1792. Ce n'est pas conférer à la petite histoire une importance démesurée que de souligner sans cesse le rôle personnel, individuel de tel ou tel roi dans le destin de son pays. À l'observation, il semble que le seul domaine où l'action des rois de France ait été constante, univoque et sans aller-retour est celui de la religion. Roi très chrétien, fils aîné de l'Église, l'homme assis sur le trône des Lys, quel qu'il fût, en quelques siècles que l'on considère, aura pesé de tout son poids en faveur de la foi dans le Christ. Encore la question gallicane parmi d'autres inciterait-elle à nuancer ce constat. Que la monarchie comme régime fût tempérée, jusqu'à Louis XII y compris, ou absolue, c'est-à-dire libre d'attache, à partir sans doute de François Ier, elle s'est donnée pour mission d'organiser, de réguler, de soutenir, de planifier, d'arbitrer, d'accompagner l'action publique. J'allais de tous côtés encourager les nôtres, faire avancer les uns et soutenir les autres, ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour. En fonction du tempérament des différents monarques, il est arrivé forcément que la personne du roi se trouve plus ou moins concernée par ce labeur quotidien. Avec le temps, à mesure que s'étendait l'emprise de l'administration, tandis que la procédure écrite se généralisait, facilitant la transmission des ordres et le suivi des dossiers, cette implication se fit plus grande. Sans doute atteignit-elle son apogée vers la fin de la période, sous le règne de Louis XV. Dans la belle somme qu'il a consacrée à ce prince, Michel-Antoine écrit « La machine gouvernementale était montée de telle sorte qu'il était impossible au roi d'être paresseux, quels que fussent ses désirs d'évasion. À jour fixe, il devait tenir ses conseils. Conseil d'en haut le dimanche et le mercredi, conseil des dépêches le samedi ou parfois le vendredi, conseil royal des finances le mardi. Cela pour les séances ordinaires, mais il y en avait d'extraordinaires, nécessités impromptues par les circonstances. Et le biographe d'évoquer l'immense qualité de travail abattue par Louis XV pour garantir la stabilité et la continuité de l'État et faire en sorte de discipliner sa cour pour tenir chacun à son rang dans la société, de sauvegarder l'intégrité territoriale du royaume, voire à l'occasion de l'enrichir de quelques provinces, et de gouverner en assurant dans la justice le respect de l'autorité royale. D'épaisses biographies ne cessent de paraître, qui, à elles seules, finissent par occuper de longs rayonnages dans les bibliothèques. Elles revisitent à l'envi les existences tellement documentées, tellement emblématiques des souverains français. Les unes se veulent scientifiques, dépouillant des masses d'archives pour mieux saisir, au-delà du monarque lui-même, l'épaisseur d'un règne dans toutes ses dimensions, politique, économique, administrative, sociale, religieuse, artistique, climatique. D'autres, plus faciles à lire, se concentrent sur la personne du souverain pour enfouiller jusqu'à l'excès la psychologie, pour en analyser les ressorts intimes, en faisant varier éclairages et perspectives. Toutes insistent sur la nécessité de distinguer l'homme et le roi. Depuis la traduction française en 1989 du maître ouvrage publié aux États-Unis en 1957 par l'historien allemand Ernst Kantorowicz, « Les deux corps du roi, essai sur la théologie politique au Moyen-Âge », une thèse portant sur la période médiévale et où la monarchie anglaise est analysée autant, sinon davantage, que sa sœur française, tout étudiant de première année en histoire est censé savoir que dans le corps mortel du roi vient se loger le corps immortel du royaume que le roi transmet à son successeur. Cette dualité intrinsèque, bien que devenue un pont aux ânes, demeure fondamentale pour saisir ce que furent en substance les rois d'Angleterre et de France jusque dans les temps modernes. Elle explique aussi, plus immédiatement que la religion elle-même, l'espèce de mystique s'attachant à la personne des monarques de droit divin. Sans être royaliste au sens habituel du terme, l'auteur de ces lignes a bien connu et parfois fréquenté, dans les dernières décennies du XXe siècle, les cercles monarchistes gravitant encore à l'époque autour des différents prétendants à la couronne de France. Il a donc pu constater, éprouver personnellement, la dimension thaumaturgique qui, en ces temps pas si lointains, vieux d'une génération en somme, imprégnait encore les princes et suscitait autour d'eux une grande componction, parfois pesante au demeurant. Qu'ils aient eu nom Bourbon ou Orléans, ces descendants de nos rois de France promenaient avec eux une sorte d'aura sacrale, faite du souvenir des lys et de l'ampoule de Saint-Remy, de la bannière de Saint-Denis et de la guérison des écrouelles.